الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه ليلة الثلاثين من شهر جماد الآخرة من عام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس الثالث في قراءة هذه الرسالة المباركة الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. Nous sommes le 23 février 2020, réunis pour le troisième cours de l'étude de cet écrit intitulé « Les moyens utiles pour une vie heureuse ». Ce sujet a la plus grande importance, comme vous le savez, car la vie heureuse, la quiétude, la sérénité, la joie et le bonheur sont des choses que tout le monde recherche, que ce soit les croyants ou les mécréants. Seulement, les gens font erreur dans la route qu'ils prennent, le chemin qu'ils empruntent pour atteindre ce but commun que tout le monde recherche. Pour cela, les savants ont écrit dans ce domaine, parmi lesquels l'imam Sa'di rahimahullah. Nous nous sommes arrêtés après avoir vu la partie de son ouvrage où il parle de certains moyens aidant à repousser, à chasser, à dissiper le stress et toutes les pensées qui viennent polluer ou perturber l'esprit de la personne, si bien qu'elle est angoissée, en colère, énervée, instable, désemparée et d'autres choses encore. Et il nous disait qu'il convient que la personne s'occupe et se concentre sur sa journée, c'est-à-dire sur son moment concret. Pourquoi ? Parce que s'attarder à penser à une chose relative au passé que l'on ne pourra pas rattraper, que l'on ne pourra jamais rattraper, sera une perte de temps. De même, s'attarder à penser à une chose que l'on redoute, une chose éventuelle, dont on n'est pas sûr de l'arriver, au final, serait aussi une perte de temps. Et ce seraient alors deux pensées, celle du passé et celle de l'avenir, qui nous perturberaient à un point tel que l'on oublierait de penser à notre présent et de penser à ce qui nous est utile. Le prophète alayhi salatu wa salam a divisé les choses en deux. Dans le hadith où il dit alayhi salatu wa salam ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Investis-toi dans tout ce qui t'est profitable, puis demande l'aide d'Allah jusqu'à la fin du récit. L'imam Sa'di rahimahullah nous dit que les choses auxquelles fait face la personne dans sa vie sont ici divisées en deux. La première, ce sont des biens que la personne peut obtenir, ou alors, si elle ne peut pas les obtenir de façon totale, elle peut au moins en acquérir une part. Elle peut les obtenir de façon partielle. Elle doit donc tout faire, s'investir pour y arriver. La deuxième, des choses qui sont redoutées, des douleurs à venir, des tristesses que l'on ne veut pas ressentir, des épreuves que l'on veut fuir, à ce moment-là, soit la personne peut œuvrer pour les dissiper totalement. Si elle ne peut pas, eh bien, elle œuvrera afin de les réduire autant que possible. Et tout cela est pris du hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, « Ihris ala ma yanfa'uk ». Investis-toi dans ce qui t'est profitable. Il y a d'autres choses que le serviteur ne peut pas obtenir. Il ne peut pas les avoir. Quelque chose relatif au passé qu'il a raté et qu'il ne peut pas rattraper. Il ne doit pas s'attarder sur ça. Il doit se soumettre à la décision d'Allah Azza wa Jal. Tout comme il y a des douleurs qui l'ont atteint qu'il ne peut pas réparer. Alors quand il ne peut pas dissiper ou diminuer, il endure et patiente. Quand il ne peut pas acquérir totalement ni partiellement, il endure et il patiente. Ainsi est le croyant. Après cela, l'imam Sa'di rahimahullah nous dit Faslun. ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته الإكثار من ذكر الله فإن لذلك تأثيرا عجيبا في انشراح الصدر وطمأنينته وزوال همه وغمه قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب فلذكر الله أثر عظيم في حصول هذا المطلوب لخاصيته ولما يرجوه العبد من ثوابه وأجره. Parmi les causes aidant à l'épanouissement de la personne et l'élargissement de sa poitrine, l'abondance du rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Certes, l'abondance dans le rappel d'Allah a un effet exceptionnel dans la personne, dans son épanouissement, dans la dissipation de ses soucis, de ses afflictions, de ses peines, de ses angoisses, des difficultés qu'elle ressent ou qu'elle redoute, des choses qu'elle regrette ou qu'elle redoute. Beaucoup de gens dans cette vie sont préoccupés par un grand nombre de troubles les ayant touchés dans leur vie, que ces derniers soient en relation avec leur religion, leur foi, ou alors leur subsistance, ou encore leurs proches et d'autres choses encore. Très souvent, lorsque la personne est éprouvée et ressent ses difficultés, elle recherche les moyens d'y remédier, tout en oubliant qu'il existe un moyen sans pareil. C'est l'évocation du nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens disent « J'aurais dû faire telle chose, j'aurais dû aller à tel endroit, j'ai manqué ce rendez-vous ». Je n'ai pas fait telle et telle chose. Voilà pourquoi il m'est arrivé ceci et cela. Et très peu sont ceux parmi eux qui disent « Peut-être qu'en réalité, je n'ai pas pu obtenir ce but que j'ai recherché dans ma journée ou dans ma vie parce que je n'ai pas évoqué Allah ce matin. Je n'ai pas prié à l'heure. Je n'ai pas prononcé les invocations du matin et celles du soir dans lesquelles le prophète alayhi salatu wassalam m'enseigne de demander à Allah tabaraka wa ta'ala notamment la science utile, la subsistance licite et une action acceptée. C'est une invocation qui se prononce après la prière du Fajr, dans laquelle tu demandes ces trois choses à Allah pour débuter ta journée. Une science utile, une subsistance bonne et licite et une action qui soit acceptée d'Allah. Pourquoi demander tout d'abord une science licite, une science utile, pardon? Parce qu'avec la science utile, tu sauras distinguer, tu arriveras à connaître le vrai du faux. Cette connaissance, cette distinction du vrai et du faux te permettra d'acquérir une subsistance dont tu seras convaincu de la licéité, qu'elle sera licite. Et tu sauras que tel moyen d'acquisition de biens est interdit par cette connaissance que tu as eue au préalable. C'est aussi cette connaissance qui te permet de faire des actions qui te seront acceptées d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tout ce bien, il est retrouvé dans l'invocation d'Allah, dans des paroles qui sont très courtes, mais dont les sens sont énormes et lourds chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Beaucoup négligent les invocations, beaucoup négligent le rappel d'Allah, Azza wa Jal, surtout ceux qui sont pris de soucis à tel point qu'ils sont habités, rongés par les nerfs, par le stress, ils n'évoquent Allah que très peu, si ils l'évoquent, subhanahu wa ta'ala. Mais comment ces gens veulent-ils atteindre la quiétude dans leur vie si le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas présent dans leur cœur? C'est impossible. C'est une utopie. On ne peut pas y arriver. Allah Azza wa Jalla a dit « Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah » Ceux qui ont eu la foi et dont les cœurs se sont apaisés au rappel d'Allah. « Ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub » N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Je vous propose d'écouter ce qu'a dit l'imam Abdurrahman al-Si'di, l'auteur de cet écrit qui fait l'objet de notre étude, dans son tafsir du Coran, en expliquant ce verset que vous venez d'entendre. Il dit « Ay يزول قلقها واضطرابها وتحضرها أفراحها ولذاتها. Ceux qui ont eu la foi et dont les cœurs se sont apaisés au rappel d'Allah, c'est-à-dire les soucis, les inquiétudes, les excitations présentes dans ce cœur ont disparu et ont laissé place à la joie et aux délices. Plus loin, il dit « حَقِيقٌ بِهَا وَحَرِيٌ أَلَّا تَطْمَئِنَّ لِشَيْءٍ سِوَى ذِكْرِهِ » Ces cœurs-là ne trouvent la quiétude dans nulle autre chose que le rappel d'Allah, Azza wa Jal. فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ أَلَذُّ لِلْقُلُوبِ وَلَا أَشْهَى وَلَا أَحْلَى مِنْ مَحَبَّةِ خَالِقِهَا وَالْأُنْسِ بِهِ وَمَعْرِفَتِهِ. Car certes, il n'y a pas meilleure saveur pour les cœurs, il n'y a rien de plus doux pour les cœurs que d'aimer le Créateur, de sentir avec lui une proximité et de le connaître. Et ça, c'est la base et l'essence du bonheur et de la joie. Celui qui connaît Allah, Azza wa Jal, qui apprend à le connaître comme il s'est présenté à nous, à travers ses noms, ses attributs, à travers la méditation du contenu de son livre, à travers la méditation de ce qu'il crée, subhanahu wa ta'ala, l'alternance de la nuit et du jour, des saisons, la subsistance qu'il met à disposition de son faible serviteur, le fait de méditer sur tout cela fait naître en la personne l'amour qu'elle ressent pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas plus bénéfique pour le cœur que de se sentir proche d'Allah, de l'aimer et de le connaître. C'est la plus grande des richesses. Un des pieux prédécesseurs a dit « Masakinu ahlu hadhihi dunya » Pauvres sont les gens attachés à cette vie d'ici-bas. Kharaju minha, ils ont quitté ce bas monde, walam yadhuqu atyaba ma fiha, alors qu'ils n'y ont pas goûté la meilleure chose s'y trouvant. Quelqu'un a dit, wama atyaba ma fiha, et quelle est la meilleure chose s'y trouvant? Il répondit, qal ma'rifatullah, wa mahabbatu, wal unsu bi qurbi, wa shawqu ila liqa'i. Il répondit, c'est la connaissance d'Allah, Azza wa Jal. C'est l'envie, c'est l'aimer. C'est l'envie le sentiment d'être proche de lui. Et l'envie ardente de le rencontrer. Celle dont nous parle le prophète, alayhi salatu wa salam, dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, d'après Aisha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa salam a dit, من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. Quiconque aime la rencontre d'Allah, Allah aimera sa rencontre. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. Et quiconque déteste la rencontre d'Allah, Allah détestera sa rencontre. قالت يا رسول الله أكراهية الموت فكلنا نكره الموت. Son épouse lui dit, ô messager d'Allah, s'agit-il de l'aversion ressentie à l'idée de mourir? Nous éprouvons tous de l'aversion pour la mort. Le prophète alayhi salatu wa salam lui dit, là, il ne s'agit pas de ça. La atahaddathu an karahiyati al-maut. Puis il lui dit, walakin al-mu'mina idha bushira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi. Mais quand le croyant reçoit la bonne nouvelle, qu'il a la miséricorde d'Allah, Azza wa Jal, qu'il a sa satisfaction et son paradis, أحب لقاء الله. Il aime la rencontre d'Allah. وأحب الله لقاءه. Et Allah aime sa rencontre. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه. Alors que le mécréant, quand on lui fera l'annonce du châtiment et du courroux d'Allah, de la colère d'Allah, كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ. Il détestera rencontrer Allah. وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ. Et Allah détestera le rencontrer. أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'attendrissent? Observez autour de vous et voyez toutes ces occupations que les gens cherchent à mettre en place dans leur vie afin de fuir la tristesse qui habite, qui est implantée dans leur cœur, dans leur poitrine, afin de fuir les angoisses, les soucis qui hantent leur esprit, afin de fuir la gêne, la peine, l'affliction, et j'en passe, sans pourtant atteindre leur but. Parce que ce bonheur est dans la main d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah fait des cœurs ce qu'il veut. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. » Ô toi qui bouleverses les cœurs, maintiens mon cœur dans ta religion. On lui demanda alors, est-ce que les cœurs se bouleversent? Ils sont tantôt dans la foi, tantôt dans la mécréance, tantôt la foi est forte, tantôt la foi est faible. Le prophète alayhi salatu wassalam a répondu par l'affirmative. Sallallahu alayhi wa sallam. Ces cœurs-là doivent être nourris. Les cœurs ont été créés pour adorer Allah. خُلِقَتِ الْقُلُوبِ لِتَكُونَ مُعَبَّدَةً لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Ils ont été créés pour adorer Allah. Ils ont été créés pour aimer Allah. Ils ont été créés pour espérer Allah. Ils ont été créés pour craindre Allah. Ils ont été créés pour être attachés à Allah. Ils ont été créés pour se diriger vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais dès lors que le possesseur de ce cœur et de ce corps le dirige vers un autre qu'Allah, eh bien, il est perdu. Il est emprisonné malgré la liberté, pauvre malgré la richesse, faible malgré la force, malade malgré la bonne santé. Et Allah Azza wa Jal a dit, « Wa innaha la ta'mal absar. » Ce ne sont pas les regards qui s'aveuglent. « Walakin ta'mal qulubu allati fi sudur. » Mais ce sont les cœurs contenus dans les poitrines. Ainsi, le meilleur moyen d'attendrir ses cœurs, c'est d'évoquer le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car certes, l'évocation du rappel d'Allah procure un effet exceptionnel dans la personne. Car la personne en espère la récompense d'Allah, azza wa jal. Et l'imam al-Sa'di a dit, « وَعَلَى قَدْرِ مَعْرِفَتِهَا بِاللَّهِ وَمَحَبَّتِهَا لَهُ يَكُونُ ذِكْرُهَا لَهُ » Et proportionnellement à la connaissance que ces cœurs ont d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de l'amour, et à l'amour qu'ils lui portent, les langues l'évoqueront. Cela te permet de tester ton degré d'amour pour Allah, azza wa jal. Car plus on aime Allah, plus on l'évoque. Plus on connaît Allah, plus on l'évoque, subhanahu wa ta'ala. Si l'on voit chez nos personnes, en nous-mêmes, que notre évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala est faible, c'est qu'il y a une défaillance dans notre connaissance le concernant. C'est qu'il y a une défaillance dans notre amour qu'on lui porte. On ne doit pas laisser la vie passer sans développer tout cela. Ensuite, l'imam Sa'di rahimahullah nous dit « وَكَذَلِكَ التَّحَدُّثُ بِنِعَمِ اللَّهِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ فَإِنَّ مَعْرِفَتَهَا وَالتَّحَدُّثَ بِهَا يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ الْهَمَّ وَالْغَمَّ وَيَحُثُّ الْعَبْدَ عَلَى الشُّكْرِ الَّذِي هُوَ أَرْفَعُ الْمَرَاتِبِ وَأَعْلَاهَا حَتَّى وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ فِي حَالَةِ فَقْرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَايَا فَإِنَّهُ إِذَا قَابَلَ بَيْنَ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْهِ الَّتِي لَا يُحْصَى لَهَا عَدٌّ وَلَا حِسَابٌ وَبَيْنَ مَا أَصَابَهُ مِنْ مَكْرُوهٍ لَمْ يَكُنْ لِلْمَكْرُوهِ إِلَى النِّعَمِ نِسْبَةٌ. Fait également partie des causes amenant la personne à l'épanouissement, le fait d'évoquer les bienfaits par lesquels Allah Azza wa Jal a comblé la personne, qu'il s'agisse de bienfaits apparents ou intérieurs. C'est-à-dire que quand Allah subhanahu wa ta'ala te comble d'un bienfait, il t'incombe d'en parler de ce bienfait. Car parler du bienfait d'Allah Azza wa Jal, l'évoquer, te permet de constater deux choses. Ar-Rububiyya, la seigneurie d'Allah. Car quand tu vois combien est parfaite ta création, quand tu vois tous les bienfaits qu'il t'a accordés, tu te rends compte que tout cela ne vient que de lui. Azza wa Jal. Ça développe donc en toi ta connaissance que tu as de sa seigneurie. La seigneurie d'Allah, c'est un mot donné à toutes les actions que seul Allah peut faire. Subhanahu wa ta'ala. Tel que t'avoir créé, donné la vie, guéri, exaucé, guidé, facilité, assisté, et ainsi de suite. Toutes ces choses-là, seul Allah peut les faire. Penser aux bienfaits d'Allah et en parler fait développer en toi cette connaissance. Pour cela, Allah Azza wa Jalla a dit « وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ » Il n'est pas un bienfait en vous existant sans qu'il n'émane d'Allah, sans qu'il ne vienne d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Également, Allah Azza wa Jalla a ordonné au prophète alayhi salatu wa salam de parler de ses bienfaits en lui disant « وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ » Quant aux bienfaits de ton Seigneur, parle-en. Pourquoi parle-en? Parce que parler des bienfaits d'Allah Azza wa Jal fait développer en toi ta croyance en la seigneurie d'Allah et de surcroît fait développer en toi ta soumission à Allah. Car quand tu sais qu'Allah est le détenteur des grandes grâces qu'il t'a accordées, seul, unique et sans associé, ton cœur délaisse tout autre que lui et se rattache à lui seul. Subhanahu wa ta'ala. Il dit فَإِنَّ مَعْرِفَتَهَا وَالتَّحَدُّثَ بِهَا يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ الْهَمَّ وَالْغَمَّ La prise de connaissance des bienfaits par lesquels Allah te comble et en parler de ces bienfaits est un moyen par lequel Allah dissipe de toi ce que tu as comme souci et préoccupation. Comme souci relatif au présent et préoccupations relatives à l'avenir. Toutes ces choses-là, elles disparaissent dès lors que tu parles des bienfaits d'Allah. Pourquoi? Parce qu'il est possible que la personne soit éprouvée et soit devant une difficulté peut-être pénible, lourde à supporter. Cette difficulté, si la personne ne surveille pas ses pensées, risque de la faire dévier vers l'oubli de tous les bienfaits qu'Allah lui a accordés en ne pensant qu'à cette difficulté. Et quand on oublie les bienfaits d'Allah Azza wa Jal et on ne pense qu'aux difficultés, eh bien, cela augmente les nerfs, le stress et la personne elle, s'éloigne du bien-être. Et Allah Azza wa Jal, par la mention de ses bienfaits, nous guide vers la reconnaissance. Et la reconnaissance pour les bienfaits d'Allah, tabaraka wa ta'ala, est un des plus hauts degrés de al-ubudiyya, de la servitude, de cet état dans lequel on doit être en tant qu'esclave d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car celui qui est reconnaissant envers Allah, c'est l'indice de la foi en lui. À tel point que les savants ont divergé. Qui est le meilleur chez Allah ? Le riche reconnaissant ou le pauvre qui est endurant? Pour vous dire la grandeur de la reconnaissance. Et l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala a dit que si le serviteur vivait des situations difficiles comme la pauvreté, la maladie ou toute autre sorte de difficulté dans cette vie, puis qu'il regardait en face de cela le grand nombre de bienfaits par lesquels Allah, par lesquels Allah l'a comblé, subhanahu wa ta'ala, il se rendra compte d'une chose, qu'au final, cette épreuve n'a rien à voir avec tous ces bienfaits qu'Allah m'a donnés. Tabaraka wa ta'ala, ça permettra à ce serviteur de supporter cette difficulté qui est inévitable. Il dit ensuite, بَلِ الْمَكْرُوهُ وَالْمَصَائِبُ إِذَا ابْتَلَ اللَّهُ بِهَا الْعَبْدُ وَأَدَّ فِيهَا وَظِيفَةَ الصَّبْرِ وَالرِّضَى وَالتَّسْلِيمِ هَانَتْ وَطْأَتُهَا وَخَفَّتْ مُؤْنَتُهَا وَكَانَ تَأْمِيلُ الْعَبْدِ لِأَجْرِهَا وَثَوَابِهَا وَالتَّعَبُّدُ لِلَّهِ بِالْقِيَامِ بِوَظِيفَةِ الصَّبْرِ وَالرِّضَى يَدَعُ الْأَشْيَاءَ الْمُرَّةَ حُلْوَةً فَتُنْسِيهِ حَلَاوَةُ أَجْرِهَا مرارة صبرها. الله أكبر. ماذا يكتب وهو في هذه الحالة؟ Regardez ce qu'écrit l'imam Sa'di alors qu'il est hospitalisé, souffrant de la tête. Il écrit aux gens comment être heureux. Regardez ce qu'il dit dans cet état. Il dit, ce qui est détestable, comme calamité et malheur, par lesquels Allah éprouve son serviteur, subhanahu wa ta'ala. Quand ce serviteur accomplit sa fonction, qui est l'endurance, la satisfaction, la soumission à Allah, azza wa jal. Car le serviteur d'Allah, tabaraka wa ta'ala, adore Allah dans deux situations, dans l'aisance et dans la difficulté. Lorsqu'il est dans l'aisance, sa fonction est d'être reconnaissant envers Allah. Lorsqu'il est dans la difficulté, sa fonction est d'être endurant face à cette dernière. Lorsqu'il se montre endurant, elle s'amoindrit, elle diminue, elle s'allège, car le serviteur en espère une récompense chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'accomplir l'adoration de l'endurance devant la difficulté rend les choses amères, rend les choses qui sont à la base amères, savoureuses. Et la saveur de la récompense que la personne attend lui fait oublier l'amertume de l'endurance qu'elle subit. Il dit ensuite, وَمِنْ أَنْفَعِ الْأَشْيَاءِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ اسْتِعْمَالُ مَا أَرْشَدَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ في الحديث الصحيح حيث قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم ألا تزدروا نعمة الله عليكم أو تزدروا. Parmi les choses les plus utiles dans ce domaine, l'utilisation de cette invocation que nous a enseigné le prophète alayhi salatu wassalam en disant « Observez les gens qui sont en dessous de vous et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous. » C'est-à-dire dans la difficulté, lorsque vous ressentez une peine, une difficulté, une épreuve, regardez les gens qui sont en dessous de vous. Regardez ceux qui souffrent beaucoup plus que vous. Vous avez un problème de manque dans la subsistance. Regardez les gens qui souffrent de pauvreté. Regardez ceux qui meurent de faim, de soif. Vous vous plaignez parce que votre vêtement est usé et vous n'avez pas de quoi acheter un vêtement neuf. Regardez ceux qui n'en ont pas. Vous vous plaignez parce que vous avez des enfants turbulents. Regardez ceux qui n'en ont pas. Vous vous plaignez parce que vous n'avez pas d'enfants. Regardez ceux qui ont des enfants et qui vivent une vie terrible. Regardez ceux qui ne sont pas même pas mariés. Un homme un jour a dit « Ishtakaytu li'adami wujudi ni'alin anta'iluha » Un jour, je me suis plaint car je n'avais pas de sandales à chausser. Il marchait pieds nus. « Fashakartu Allah lamma ra'aytu man laysa lahu qadaman » J'ai alors montré à Allah ma reconnaissance et ma gratitude quand j'ai vu quelqu'un amputé de ses deux pieds. Je me plains de ne pas avoir de sandales. Certains n'ont pas de pieds. Donc, lorsque tu vois les bienfaits d'Allah sous cet angle, tu te dis, « Wallahi ana fi ni'matin azima » Je suis dans un bienfait immense. Et il faut toujours regarder ceux qui sont en dessous de toi. Tu en trouveras toujours forcément. Des gens qui aimeraient tant te ressembler dans les bienfaits que tu as. Car lorsque tu regardes la situation de ceux qui sont au-dessus de toi, qui ont plus, qui ont mieux que toi, tu oublies les bienfaits d'Allah. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit, c'est meilleur afin que vous ne méprisiez pas les bienfaits d'Allah. Azza wa jal. Et là, j'attire votre attention dans le domaine de l'éducation des enfants sur une question extrêmement importante. Lorsque l'enfant mange, mais n'a pas tout ce qu'il voulait manger, se met à dire « je n'ai rien mangé ». Comment peux-tu dire que tu n'as rien mangé alors que certains sont morts de faim, alors que certains aimeraient tant manger ce que toi, tu estimes être un peu. Ça, il faut le rentrer dans l'esprit de l'enfant. Il ne faut pas le laisser grandir comme cela. Car il va grandir en méprisant les bienfaits d'Allah. Et vous serez alors responsable dans cette éducation. De même, les gens âgés ne doivent pas dire « Le pauvre, il n'a rien mangé ». Ils doivent lui enseigner « Alhamdoulilah, tu as trouvé de quoi manger ». Le pauvre, il n'a rien mangé. Subhanallah. La part qu'il a mangée, dans certains pays, c'est 5 enfants qui la mangent. Quand il la trouve. C'est comme ça qu'il faut s'éduquer et éduquer les autres. Regardez ceux qui ont moins que nous pour constater qu'on a finalement beaucoup de choses. Le prophète, alayhi salatu wasalam, ne mangeait pas de viande des mois durant. Les sahaba, radiyallahu anhum, certains ont souffert avec la famine, avec la sécheresse, avec la pauvreté. Jamais ils ne se sont plaints. Un des salafs, un des savants de la ville de Médine, était un jour en voyage. Ce dernier avait 6 enfants. Et au cours de ce voyage, il a dû être amputé d'une jambe à cause d'une gangrène qui montait dans son corps. Et le même jour, il perdit son enfant. Il dit, « Alhamdoulillah, j'avais 4 membres. Tu m'en as laissé 3 quand tu m'en as repris un, oh Allah. J'avais 6 enfants, tu m'en as repris un et tu m'en as laissé 5. » Regardez comment ils sont. Alors que dans cette vie dans cette dunya que nous vivons, lorsque quelqu'un est touché de quelque chose qui est pourtant léger, qui est pourtant futile, on entend toutes les plaintes. Lorsqu'il n'a pas assez mangé, il se plaint. Quand il a trop mangé, il se plaint. Quand il a faim, il se plaint. Quand il est rassasié, il se plaint. Quand il fait froid, il se plaint. Quand il fait chaud, il se plaint. Quand son frigidaire n'est pas rempli, il se plaint, mais il oublie que des gens ne savent même pas ce qu'est un frigidaire. Et que pour conserver la viande, ils ont recours au sel qu'ils mettent sur la viande et la laissent sécher au soleil pour la garder des mois durant. Et ces derniers sont pourtant très reconnaissants envers Allah de trouver de quoi manger. Plus on a, plus on est tenté et plus on risque d'oublier Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est à cause de ça que beaucoup de gens sont stressés dans leur vie. Ils se plaignent constamment, alors que par Allah, ils sont comblés de grands bienfaits. Et jamais on ne les entend être reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Sa'di rahimahullah a dit, « فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَبَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ هَذَا الْمَلْحَظَ الْجَلِيلِ رَآهُ يَفُوقُ قَطْعًا كَثِيرًا مِنَ الْخَلْقِ فِي الْعَافِيَةِ وَتَوَابِعِهَا وَفِي الرِّزْقِ وَتَوَابِعِهِ مهما بلغت به الحال فيزول قلقه وهمه وغمه ويزداد سروره واغتباطه بنعم الله التي فاق فيها غيره ممن هو دونه فيها وكلما طال تأمل العبد بنعم الله الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية رأى ربه قد أعطاه خيرا كثيرا ودفع عنه شرورا متعددة ولا شك أن هذا يدفع الهموم والغموم ويوجب الفرح والسرور. Lorsque le serviteur met en face de ses 2 yeux ce constat dont on vient de parler, il se verra comme ayant été favorisé à un très grand nombre de gens dans la bonne santé, par exemple, dans la préservation des maux, dans la subsistance et tout ce qui en découle. Il verra que finalement, il est comblé et il a beaucoup. Peu importe l'état qu'il a atteint de difficulté, ses peines, ses inquiétudes, ses soucis se dissiperont alors et augmentera en lui la joie et le bonheur car il observe les bienfaits d'Allah. Il n'a pas oublié les bienfaits d'Allah à cause des épreuves d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et plus le serviteur médite, plus le serviteur médite sur les bienfaits d'Allah, apparents ou intérieurs, religieux ou mondains, apparents ou intérieurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des bienfaits qui sont apparents, comme la subsistance, la santé, la famille et autres. Il y a des bienfaits qui ne se voient pas, qui sont en toi. Le fait de pouvoir écouter ce que tu entends, le fait de pouvoir le comprendre, le fait que ces paroles atteignent ton cœur, te permettent de méditer, de te remettre en question, c'est un bienfait intérieur qui n'a aucun égal, un bienfait qui est sans pareil, qui est inestimable. Mais notre insouciance fait que l'on ne s'en rend pas compte. Wallahu al-musta'an. Et la personne se verra comblée par Allah et verra qu'elle aura bien plus que bon nombre de gens et qu'Allah a repoussé d'elle beaucoup de méfaits. Et alors, les soucis disparaissent et la joie vient prendre leur place. L'auteur nous dit, Faslun, wa min al-asbab al-mujibati lis-surur wa zawal al-hamm wal-gham. السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرور وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه ردها ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال وأن ذلك حمق وجنون فيجاهد قلبه عن التفكر فيها وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله مما يتوهمه من فقر أو خوف أو غيرهما من المكاره التي يتخيلها في مستقبل حياته فيعلم أن الأمور المستقبلة مجهول ما يقع فيها من خير وشر وآمال وآلام وأنها بيد العزيز الحكيم ليس بيد العباد منها شيء إلا السعي في تحصيل خيراتها ودفع مضراتها ويعلم العبد أنه إذا صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل أمره واتكل على ربه في إصلاحه واطمأن إليه في ذلك إذا فعل ذلك اطمأن قلبه وصلحت أحواله وزال عنه همه وقلقه. Il nous dit, parmi les causes aidant à dissiper les soucis et les afflictions, les peines et les afflictions, le fait de s'investir dans le fait de chasser toutes les causes qui amènent ces soucis. Car les soucis que la personne ressent ont des causes, n'est-ce pas? Les difficultés, les peines, les douleurs ressenties dans le cœur ont forcément des causes qui ont amené ces soucis dans ce cœur. Si bien que la personne se voit perturbée, déstabilisée, désemparée, stressé, courroucé, en colère et autres. Ces causes-là, il faut les combattre. Il faut les chasser et faire toutes les causes amenant à la place le bonheur. Comment ? Il nous dit, en s'efforçant d'oublier les choses détestables relatives au passé que l'on ne peut de toute façon pas rattraper. Ça ne sert à rien de s'attarder. Des fois, des gens sont éprouvés dans leur vie. Ils ont traversé des étapes dans leur vie et ils ne font que de les évoquer, d'en parler, de les rabâcher. À quoi ça va servir? Dès que cette personne oublie ses bienfaits, elle se sent mieux. Dès qu'elle se met à en parler à nouveau, voilà que les soucis reviennent dans son cœur. Elle n'est plus concentrée dans sa prière. Elle n'est plus motivée pour l'évocation d'Allah. Subhanahu wa ta'ala, c'est la ruse de Shaytan. Ce qui est passé, est passé. L'essentiel, c'est maintenant, désormais. Que vais-je faire? Quant à ce qui est passé, fais en sorte que ce soit une expérience pour ce qui est à venir et pour ton jour. Voilà ce qui est utile. Voilà comment chasser les causes amenant les soucis. Et de garder à l'esprit que le fait d'occuper son esprit, justement, et sa réflexion par ce genre de choses relatives au passé irrattrapable relève de la folie et de la perte de la raison. Car c'est inutile, il n'y a rien à faire. Des gens, certes, des fois, quand il leur est dit « arrête de parler du passé », ils disent « oui, mais » quand il leur est dit « Udhkurillah, évoque Allah ». Oui, mais. Ne dis pas oui, mais. Ça vient de Shaitan. et évoque Allah tabaraka wa ta'ala. Et ne dis pas, j'ai évoqué Allah, mais mon souci est encore là. Car, si tu évoques Allah tabaraka wa ta'ala, comme il se doit, eh bien, à ce moment-là, ce souci disparaîtra. Si ce souci ne disparaît pas, si ce mal ne disparaît pas, c'est que tu ne l'as pas fait comme il se doit. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, nous dit, « إِذَا عَمِلْتَ لِلَّهِ طَاعَةً فَلَمْ تَجِدْ أَثَرَهَا » Il dit, فَاتَّهِمْ نَفْسَكْ فَإِنَّ الرَّبَّ سُبْحَانَهُ شَكُورٌ Allahu Akbar. Il dit, lorsque tu fais une obéissance pour Allah, sans en ressentir l'effet, accuse ta personne, car Allah est reconnaissant. Qu'est-ce que cela veut dire? Allah tabaraka wa ta'ala est reconnaissant. Quand tu fais un bien, il est reconnaissant envers toi. Comment? Notamment, il te récompense dans l'au-delà, mais il te récompense dans cette vie. Il met une quiétude dans ton cœur. Il épanouit ta poitrine. Il te donne une joie. Il fait développer l'amour que tu as d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il fait augmenter ta foi. Il dit, si tu fais une œuvre d'obéissance pour Allah, إِذَا عَمِلْتَ لِلَّهِ طَاعَةً فَلَمْ تَجِدْ أَثَرَهَا sans en ressentir l'effet, فَاتَّهِمْ نَفْسَكْ accuse ta personne. Fouille en toi-même. Fais le bilan de ta personne. Ne dis pas, je ne comprends pas, j'ai prié, je ne ressens rien, j'ai invoqué, je ne ressens rien, mon cœur ne bouge pas, mon cœur ne vibre pas. Et ne pense pas que dans ce domaine-là, il s'agit de faire une invocation et toute la foi va arriver. La Buddha min jihad in nafs. Il faut combattre l'âme. Encore et encore. À un moment, tu vas sentir quelque chose. À un moment, tu ne le sens plus. Tu dois combattre, faire des œuvres, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal te donne. Certains salafs, avant de goûter la saveur de la prière de la nuit, priaient des années durant. Et ils disaient, j'ai prié pendant tant d'années pour enfin ressentir l'effet de la prière de la nuit. Et ça, c'est un des plus grands djihad. C'est un des plus grands efforts que l'on peut faire. C'est le fait de faire l'effort contre ton nefs, contre toi-même, tout en évoquant Allah Azza wa Jal. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit dans son livre Al-Wabil al-Sayyid, parmi les fawa'id du dhikrillah, du dhikrullah Azza wa Jal, du rappel d'Allah, Al-Fa'ida al-Thaniya wa Sittoun, l'invocation, le mérite numéro 62 qu'il a cité, il dit, Inna ummal al-akhira fi midmari sibaq wa dhakiruna fiha asbaquhum. Il dit, les travailleurs pour l'au-delà, ceux qui se préparent, qui cheminent vers Allah, qui font des actions, les travailleurs pour l'au-delà sont dans un champ de course. Et ceux qui évoquent Allah parmi eux ont devancé les autres. Donc ne dis pas « oui mais », mais efforce-toi de te corriger et accuse ta personne, car il s'y trouve une défaillance. L'imam Sa'di rahimahullah a dit que la personne doit ainsi combattre son âme afin de chasser de son esprit ses pensées. Pourquoi? Les savants évoquent dans la réforme des cœurs une base importante qui est « hirasatul khawatir » surveiller ses pensées, faire attention à ses pensées. Parce que les pensées sont destructrices si elles ne sont pas tenues, géré par la personne. Si tu te laisses aller dans tes pensées, tu peux penser à tout et à rien. Tu peux penser à toute chose mauvaise. Tu peux nourrir dans ton cœur une mauvaise opinion que tu te ferais d'un croyant injuste, injustement sans preuve. Ton cœur sera souillé. Tu peux penser du mal d'Allah, Azza wa Jal, qu'il ne va pas t'exaucer, qu'il ne va pas te répondre, qu'il ne va pas t'accorder ta subsistance. Ton cœur sera souillé. Tu peux penser et songer à faire un péché, ton cœur sera souillé. Tu peux penser à une chose futile, ton cœur sera souillé. Tu dois constamment surveiller tes pensées et les occuper dans ce qui est utile, dans le rappel d'Allah Azza wa Jal, dans l'apprentissage de la science, le fait d'écouter la science, les cours que les savants dispensent ou que les faibles traduisent, ou le fait de lire une science utile et profitable, ou alors encore le fait de lire le livre d'Allah Azza wa Jal, ou le fait de t'occuper par une chose mondaine, utile et bénéfique, un commerce licite, une entreprise licite, la visite d'un endroit qui te permet de méditer les noms, les attributs d'Allah, la perfection d'Allah, subhanahu wa ta'ala, l'essentiel d'occuper tes pensées dans ce qui est bon et de ne pas laisser à tes pensées ou à ton esprit de place pour ce qui ne t'est d'aucune utilité, mais qui t'est nuisible. Seulement, le croyant est celui qui sait le faire. Le croyant doué de raison qui demande l'aide d'Allah, tabaraka wa ta'ala, est celui qui saura le faire. Car beaucoup de gens veulent occuper leur esprit afin d'oublier les soucis, mais de la mauvaise manière. Pour cela, ils consomment les drogues, ils consomment l'alcool, et quand tu lui demandes pourquoi, il te dit « j'ai trop de soucis ». Donc pour oublier les soucis, qu'est-ce qu'il fait? Il se plonge dans d'autres soucis. Ou alors, il multiplie les voyages tout en délaissant la prière. Par exemple, il multiplie les voyages d'un pays à un autre, il dépense tout son argent, il passe son temps à acheter, à vendre, acheter, à vendre, au point d'en délaisser Salat al-Jumu'ah ou al-Jama'ah, la prière du vendredi, la prière en groupe. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il est abattu par les soucis. Mais il ne veut pas revenir. Il ne veut pas revenir à la cause de son bonheur, qui est la soumission à Allah, Azza wa Jal. Il ne veut pas écraser son nefs, son âme incitatrice au mal, qui le tente à pencher vers le mal qui déplaît à Allah, subhanahu wa ta'ala. Certes, le fait de méditer sur les pensées, le fait de contrôler tes pensées et de les orienter vers tout ce qui est bon, tout ce qui est dans la religion, tout ce qui est dans la dunya, mais licite, sans aucun problème, c'est quelque chose de bien. Et le fait de se laisser aller dans toutes ces pensées, eh bien, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit que, il dit, le fait de se laisser aller dans cela, يلحق بالإنسان نقصا عظيما في دنياه وعذابا شديدا في أخرى. الله أكبر. Le fait de se laisser aller dans les pensées fait naître en la personne une grande défaillance, un grand manque dans sa dunya. Pourquoi? Elle ne sera jamais apaisée. Et elle est tentée de désobéir à Allah, Azza wa Jal. Et enfin, un châtiment yawm al-qiyamah. Car si elle suit ces pensées-là, elle risque de faire ce qui est mauvais et qui la conduit au châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens occupent leur temps dans des pensées mauvaises. C'est pour ça que, par exemple, certains ne peuvent absolument pas dormir sans la télé. La télé qui va, bien entendu, lui détruire son cœur. Sans la musique, qui va, bien entendu, polluer son fort intérieur. Ils n'arrivent pas à s'endormir sans la désobéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit, je suis bien quand j'écoute cette chose ou quand je vois cette chose-là. Ce ressenti que la personne a est le sens de la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Le diable a enjolivé leurs actions. Le diable a enjolivé leurs actions. وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ. Ainsi, il faut combattre son âme et ne pas penser à toutes ces choses-là, et à celles que l'on redoute en relation avec l'avenir, telles que la peur de devenir pauvre. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je ne vais plus avoir d'argent, je ne vais plus. Au point où maintenant, on nous parle des crises, on nous parle de, attention, si telle banque perd tel argent, il n'y aura plus d'essence, on ne pourra plus aller au travail, il n'y aura plus de nourriture dans les magasins, et tu vois les gens, ils lisent ces informations, ils sont habités par la peur totale. Ils courent ici et là, à droite et à gauche. Ils se préparent, Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de azab al-yawm al-qiyamah. Personne ne se prépare, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Allah tabaraka wa ta'ala nous parle du châtiment. Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de sa rencontre pour laquelle il faut se préparer. Tu ne vois pas, tu ne vois pas les gens excités se préparer, se dire vite, qu'avons-nous fait? Qu'allons-nous dire à Allah? Qu'allons-nous répondre à Allah? Tu ne vois pas ça? Sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Allah tabaraka wa ta'ala nous parle des récompenses à gagner pour la prière en groupe. Personne ne se précipite. Sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Mais quand on parle d'un salaire à gagner, là tu vois un grand nombre de gens se précipiter. Ça montre l'état des cœurs. L'état des cœurs. Et Allah Azza wa Jalla a dit « Wa in tuti' akthara man fil ard yudilluka an sabilillah » Et si tu obéis à la majorité des gens de la terre, ils t'égareront de la voie d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir que tout ce qui est en relation avec l'avenir est inconnu pour nous. C'est Allah qui le connaît. Que ce soit des douleurs ou nos souhaits, toutes ces choses-là, c'est Allah qui le sait. Subhanahu wa ta'ala. Combien de gens ont été voir le médecin qui leur a dit « Je suis désolé, vous êtes dans un état critique, il vous reste tant de mois. » Certains ont été affolés par ces paroles au point d'en mourir avant même que ce mois ne s'écoule. D'autres ont dit « هذا قولك أما أنا فلي رب يراني ويخلقني ويشفيني يفعل ما يشاء قمت بالأسباب وها أنا أتوكل عليه وأقبل ما يختار فإن عاش عاش مرتاحا وإن مات مات مرتاحا مؤمنا الله أكبر. Il y a des gens qui disent, quant à moi, c'est juste une parole que tu me dis. Ils se disent dans le cœur, cette parole qu'il m'a dit, il ne vous reste qu'un mois, vous risquez telle et telle chose, ce n'est qu'une parole. C'est possible que ça m'arrive, et il est possible que cela ne m'arrive pas. Moi, je m'en remets à Allah. J'ai un Seigneur qui crée, qui guérit, qui guide, qui égare, qui donne et qui reprend. Et quand il a ça en tête, subhanallah, il est tellement apaisé que s'il meurt effectivement, il meurt apaisé. Et s'il vit, il a tout gagné. Parce qu'il vit apaisé et il voit qu'il a été reconnaissant envers Allah et qu'Allah thabbatahu fi hadha al-imtihan. Qu'Allah l'a raffermi dans cette épreuve-là. Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, al-Allama, al-Imam, al-Zahid, al-Faqih, al-Rajul Salih, rahimahullahu rahmatan wasi'a. L'élève de Abd al-Rahman ibn Nasir al-Si'di rahimahullah. Un grand imam, il était souffrant d'un cancer. Kana lahu saratan, afallahu al-muslimin. Il avait un cancer. Ibnuhu yaqulu la, ya abi, nusafiru ila amrika lil'ilaj. Son père lui dit, oh mon fils. Son fils lui dit, oh mon père, voyageons aux États-Unis, peut-être allons-nous trouver un moyen, un remède, quelque chose. Tadruna madha yaqulu la? Vous savez ce qu'il lui répond? À cet âge-là, il avait 74 ans. Kana fi dhaka al-waqti qad balagha min 'umrihi 74 sana. Il avait atteint 74 ans. Wa ta'lamuna, et vous savez que le Nabi alayhi salatu wasalam mata wa qad balagha min 'umrihi kam 73 sana. Le prophète alayhi salatu wasalam est mort à 63 ans. Son fils Abdullah ibn Sheikh ibn al-Uthaymin rahimahullah raconte, il dit, quand j'ai dit ça à mon père, j'ai tout fait pour le convaincre. Il m'a dit, ya waladi, hadha al marad, oh mon fils, cette maladie, yusibu al faqir wal ghani wal kabir wal saghir wal da'if wal qawi. Elle atteint le fort, le faible, le malade, le riche, le pauvre, le grand, le petit. Il dit, wa ha ana qad ishtu akthar min عمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى عشرة سنة الحمد لله فيها البركة يا سبحان الله. C'est son fils qui le raconte, Abdullah ibn Sheikh ibn al-Uthaymin. Il dit, mon père m'a répondu, oh mon fils, cette maladie, elle atteint le petit, le grand, le faible, le fort, le riche, le pauvre, tout le monde a été atteint par cette maladie. Et moi, par la grâce d'Allah, j'ai vécu 11 ans de plus que le prophète, alayhi salatu wassalam. Alhamdulillah, ça me suffit, je reste là, on fait ce qu'il y a à faire ici. Si on trouve alhamdulillah, sinon alhamdulillah. Ils lui ont dit, on doit faire une chimiothérapie. Ils lui ont dit, par contre, ça va vous faire perdre les poils. Il a dit, est-ce que ma barbe va tomber? Ils ont dit oui. Il a dit, je ne la fais pas. Je ne rencontre pas Allah Azza wa Jal sans ma barbe. Subhanallah. Ma hada l'insan. Alim ya'rifu Allah Azza wa Jal. C'est un savant qui connaît Allah tabaraka wa ta'ala. Ja'ahu l'amir. Ma hukmu ta'ati wali l'amr al-wujub. Amuru kantu safir. Safar. Rahimahullah. Le gouverneur est alors venu le voir, il n'y avait plus personne pour le convaincre. Il lui a dit, quel est le jugement en islam d'obéir au gouverneur? Il a dit, l'obligation. Il a dit, voyage. Il a obéi, il a voyagé aux États-Unis. On lui a dit, attention, tu arrives là-bas pour te soigner. Tu es trop malade. Abshir, abshir. Il est arrivé là-bas, il a dit, Aina al-Markaz al-Islami al-Aqrab. Où est le centre islamique le plus proche? Il est parti, il a fait des durus. Il a enseigné. Il est revenu, rahimahullah, souffrant. Il s'est assis à al-Masjid al-Haram, à la Mecque, la mosquée sacrée de la Kaaba. Kana yudarris yu'allim al-nas, amam al-Kaaba, devant le Kaaba. Il était très malade. Vous savez ce qu'ils lui ont fait? Ils lui ont fait une chambre d'hôpital, avec le lit, avec les perfusions, avec le masque et tout ce que l'on utilise. Et il s'est allongé dans cette chambre, ils lui ont mis un micro, il était allongé et il faisait son dars. Il faisait son cours et les gens dehors écoutaient. Et on l'entend, le dernier audio de sa vie, rahimahullah, où tu vois, tu sais qu'il est en train de souffrir. Et il fait un dars complet, entier. هذه الراحة هذه الحرية التي يبحث عنها كل هؤلاء المساكين ولم ولن يجدوها إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. C'est ça la liberté. الحرية أنك مع الله لا أنك بعيد عن الله. La liberté, c'est quand tu es avec Allah. لماذا لأنك إذا كنت مع الله فأنت أقوى الناس وأنت أثبت الناس وأنت أرضى الناس وأنت أنعم الناس وأنت أكبر الناس. Lorsque tu es libre et que tu es avec Allah عز وجل, tu es le plus fort, tu es le plus riche, tu n'as besoin de personne. الناس كلهم في قلق وأنت في جنة قبل الجنة. Les gens sont tous dans l'inquiétude, dans les soucis. Anta murtah billah, anta radin billah. Tu es satisfait avec Allah, tu acceptes Allah. Wallahi anta fi raha. Nas'alullah. Nas'alullah. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula wa bismihi al-a'zam. الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يرزق قلوبنا اليقين وأن يرزق صدورنا الانشراح ويغفر ذنوبنا نسأل الله تبارك وتعالى يا حي يا قيوم اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا العظيم الودود الحليم الرحيم نسألك ألا تحرمنا حياة القلب وانشراح الصدر اللهم ارزق لقلوبنا رقة نعبدك بها ونحقق بها حسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم من علينا بالإيمان ومن علينا بالإخلاص وثبتنا عند الامتحان وارزقنا العافية والسلامة إنك على كل شيء قدير والله المستعان. L'imam Sa'di, rahimahullah ta'ala, dit ensuite, ainsi le serviteur s'en remet complètement à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Il s'en remet à son Seigneur. Et s'il est dans cet état, alors sa situation tout entière sera réformée. Il sera libéré. Et il dit, rahimahullah, parmi les choses les plus utiles dans ce domaine-là, prononcer l'invocation, enseigner et prononcer aussi par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam al-ad'iyatu an-nabawiyya fiha kullu khayr. تريد أن تدعو الله تحب أن تدعو الله عز وجل تعلم دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. Les invocations contiennent tout le bien. Tu veux invoquer Allah? Eh bien, apprends comment le prophète a invoqué Allah عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام يقول وهو يدعو الله اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. Le prophète alayhi salatu wa salam dit dans son invocation: Allahumma aslih li dini. O Allah, réforme ma religion. Ij'alni mu'minan 'ala ad-din, muttabi'an li dinik, 'amilan bih, thabitan 'ala dinik. Aslih li dini. Réforme ma religion. Fais de moi un croyant, un homme pieux, vertueux, obéissant, ou une femme s'il s'agit d'une femme. Car cette religion, c'est ce à quoi je m'accroche. Ismatu amri. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Et réforme aussi ma vie d'ici-bas dans laquelle je vis. Lanna al-insana la yansa nasibahu min ad-dunya. Yashtaghil, ya'mal, yashtari, yabi', ya'kul, yashrab, yatamatta', yazur, yusafir, yara ard Allah, la yansa kull hadha halal. L'individu ne doit pas oublier sa part de cette vie d'ici-bas, de cette dunya. Il travaille, il achète, il vend, il fait du commerce, il visite la terre d'Allah, mais il le fait en tant que croyant. Il accompagne une bonne intention à tout cela et elles deviennent des actions récompensées. C'est ça qui fait la différence entre lui et l'autre. Quand je dis l'autre, je parle du kafir, du mécréant. Il dit ensuite: وَأَصْلِحْ لِآخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَ مَعَادِي. Et réforme mon au-delà, dans laquelle il y a mon lieu de retour. إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادِ. الَّذِي أَوْحَى إِلَيْكَ الْقُرْآنَ يَرُدُّكَ إِلَى الْمَعَادِ أي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Allah Azza wa Jal te fera revenir vers lui يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Et tu as besoin de trouver une bonne situation. تحتاج أن تجد حالا طيبة أمام الله يوم القيامة أن تكون في أمن وأمان من العذاب. Tu as besoin d'être en sécurité contre le châtiment d'Allah تبارك وتعالى. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. Et fais que la vie soit pour moi un ajout de tout bien. والموت راحة لي من كل شر. Et que la mort soit un repos de tout mal. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. Le prophète عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ dit: اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو. وَالْأَصْلُ أَنْ يُقَالَ اللَّهُمَّ أَرْجُو رَحْمَتَكَ. لكن لما قال رحمتك أرجو دل على أنه لا يرجو إلا رحمة الله تبارك وتعالى. Oh Allah, ta miséricorde j'espère. Alors qu'à la base on dit j'espère ta miséricorde. Le fait d'avoir cité la chose espérée qu'est la miséricorde avant l'action qui est celle d'espérer indique que l'on a restreint l'espoir en la miséricorde d'Allah uniquement. Et que ce n'est que la miséricorde d'Allah que l'on espère. La tarju an-nas. Urju Allah azza wa jal. An-nas tamut. Allah huwa al-hayy alladhi la yamut. An-nas taqwa wa tad'uf. Allah huwa al-qawiy al-matin. N'espère rien des gens. Les gens meurent, Allah ne meurt pas azza wa jal. Les gens s'affaiblissent, Allah est fort. Subhanahu wa ta'ala. Les gens s'appauvrissent, Allah est riche. Espère que d'Allah. La rahmataka arju. Fala takilni ila nafsi tarfata'in. Et la takhzulni. La tada'ni wahdi. Kun fi auni fi kulli ahwali wa kulli awqati. Walau, hadhi l'mudda l'yasira lati hiya tarfata l'ayn. Taftahuha wa tughmiduha. Le prophète, alayhi sallam, dit: j'espère ta miséricorde uniquement. Ne me laisse donc pas m'en remettre à ma personne, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Car ce temps-là, aussi court soit-il, si Allah t'abandonne, tu es perdu pendant ce temps-là. Tu es détruit. Pour cela, certains salafs disaient, « Kun fi hali rakhaik » soit quand tu es en situation d'aisance, « Kalladhi yaghriq wa yad'u Allah » comme celui qui est en train de couler et qui invoque Allah. Pensez qu'il va l'invoquer comment? Vous pensez, mes frères, qu'il va invoquer Allah comme beaucoup le font après la prière? Hein? Il fait le tasbih, il regarde à droite, à gauche, devant, derrière. Où est le cœur? Il demande à Allah avec un cœur complètement absent. Le cœur est dissipé. Le cœur est concentré sur autre chose. Comment Allah donne? Allah donne quand le cœur est présent, quand on l'invoque. Subhanahu wa ta'ala. Ne me laisse pas me remettre à ma personne, ne serait-ce que l'instant d'un clin d'œil. Wa aslih li sha'ni kullah. Et réforme toute ma situation. La ilaha illa ant. Nulle autre divinité que toi ne mérite réellement d'être adorée. Subhanahu wa ta'ala. Qala fa idha lahaja al-'abdu bi hadha ad-du'a alladhi fihi salah mustaqbalihi ad-dini wad-dunyawi bi qalbin hadir wa niyyatin sadiqah ma'a ijtihadihi fi ma yuhaqqiqu dhalik haqqaqa Allahu lahu ma da'ahu wa rajah wa 'amila lahu wa anqalaba hammuhu farahan wa surura. Si le serviteur ne cesse de prononcer cette invocation dans laquelle il demande la réforme de tout son état, de toute sa situation, l'aide d'Allah, Azza wa Jal, en rapport avec son avenir, religieux ou mondain, s'il fait cela avec un cœur présent, car le secret de l'exaucement des invocations, c'est la présence du cœur. Si le cœur est absent, tu peux apprendre par cœur les invocations du prophète alayhi salatu wassalam, elles ne seront pas utiles. Pas parce qu'elles ne sont pas efficaces en elles-mêmes, elles sont efficaces. Mais l'efficacité de l'invocation prend effet quand elle est prononcée par la langue de celui dont le cœur est présent pendant que cette langue bouge. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. J'essaie de retrouver une parole de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, que je voulais vous lire et que j'avais traduite. Je l'avais intitulée dans la traduction « Un domaine où beaucoup de gens se trompent ». L'éminent savant Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son très bénéfique livre intitulé « La maladie et le remède » a dit « Et tu constates très souvent que des invocations ont été prononcées par des gens et ont été exaucées. Ceci car l'invocation a coïncidé avec le très grand besoin de celui qui l'a faite et l'attachement de son cœur à Allah. Cela peut être dû également à une bonne œuvre de sa part qui fut la cause de la reconnaissance d'Allah par l'exaucement de son invocation. Ou encore, son invocation a coïncidé avec un moment propice à l'exaucement, etc. Son invocation fut ainsi exaucé et accepté. Quelqu'un pourrait alors croire que le secret réside dans les termes employés dans cette invocation. Il se met alors à les répéter sans toutes ces choses qui avaient accompagné l'invocation de la première personne. Ceci à l'image d'un homme ayant utilisé un médicament efficace au moment opportun et de la bonne manière. Ce médicament fut efficace. Un autre a pensé que la simple utilisation de ce médicament suffit pour atteindre la guérison, alors qu'il est dans l'erreur. C'est un domaine où beaucoup de gens se trompent. Vous avez compris? Donc, certains, des fois, disent, « Quelle est l'invocation que tu as faite? J'ai dit telle chose et Allah m'a donné. » Ils pensent alors qu'il suffit de répéter telle chose en question pour qu'Allah donne. Non, il faut le faire avec tout ce qu'il y a autour. C'est pour ça que cela s'apprend. On appelle ça « fiqh ad-du'a ». La compréhension de l'invocation. Il y a beaucoup de choses à comprendre dans l'invocation. Ce ne sont pas que des paroles qui sont répétées ou prononcées sans sens, sans toutes ces choses-là qui s'apprennent. Allah tabaraka wa ta'ala m'a facilité de lire l'explication des invocations et rappels. Dans une série de cours que j'avais intitulé « La compréhension des invocations et rappels » que j'avais pris d'un écrit du Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah. Et je remercie Allah d'ailleurs de m'avoir facilité cela et vous conseille vivement d'écouter l'explication dans les audios qui sont disponibles sur le site La Voix Droite. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك